plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelle et fiction imaginaire, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir les louloutes, je vous embrasse. Ah oui les gars, je ne vous oublie pas. Allez, zou, le programme. L'homme sans cerveau, ou presque, est toujours vivant. Puis, la balle de golf et le corbeau. Pas con le piaf. On va commencer un petit peu de musique, Gigi Cale.
So sad to say, talking about yesterday, all those good times are gone. The way we were was fun, always on the run. Things ain't simple anymore. We took love easy. Those memories in my mind. Ain't a day goes by I don't stop and cry. Things ain't simple
sans cerveau. Si. Écoutez plutôt. En 2011, une équipe de médecins de l'université de l'Iowa, sous la direction de David Rudroff, publie une étude sur la situation aberrante d'un patient nommé Roger. Aberrante, car il est normal. Et pourtant, depuis 30 ans, cet homme n'a plus de cerveau. Du moins, toutes les zones réputées indispensables au fonctionnement de la conscience ont-elles été détruites par une encéphalite. Pourtant, sa mémoire est intacte. Un seul souvenir lui fait défaut, les circonstances de son accident cérébral. Et il a perdu le goût. À part ça, il s'exprime normalement et il se reconnaît aussi bien dans une glace que sur ses photos d'enfance. Or, la perception de soi-même, produit évident de la conscience, n'est absolument plus envisageable avec une telle absence de cerveau. Conclusion timide de l'étude médicale, je cite, la perception de soi est un phénomène plus diffus que prévu. En tout cas, on est loin de l'affirmation définitive du professeur Pierre-Jean-Georges Cabanis, physiologiste et membre de l'Académie française au début du XIXe siècle, qui disait « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile ». C'est peut-être remis en question. Et le cas de Roger n'a rien d'unique. Marseille 2003. L'hôpital de la Timone est en émoi. Un homme de 44 ans, père de famille et fonctionnaire, est venu consulter le service du docteur Feuillet pour un léger trouble de la marche. Scanner et IRM révèlent des images ahurissantes. Son cerveau n'est qu'une bande de quelques millimètres d'épaisseur collée à sa boîte crânienne. Commentaire du neurologue Jean Pelletier. Avec une imagerie de ce type, on se serait attendu à ce qu'il soit dément et gravataire. Comme quoi, on a toujours intérêt à connaître les gens avant de les examiner. Pour le docteur Lionel Feuillet, qui a décrit le cas de son patient dans la revue scientifique The Lancet, cette discordance entre une imagerie très inquiétante et une vie quasiment normale est un message d'espoir. C'est aussi le fruit de l'ignorance. Suite à une hydrocéphalie décelée à l'âge de 6 mois, le futur fonctionnaire de Marseille avait été équipé d'un tube de dérivation, une sorte de paille évacuant le liquide céphalo-rachidien vers la cavité cardiaque puis abdominale. Le problème était officiellement réglé, sauf que la paille s'était bouchée. La pression du liquide avait alors écrasé contre la boîte crânienne le cerveau qui s'était réduit à la dimension d'un code-barre. Mais comme on ne s'en était pas rendu compte, l'enfant avait pu grandir sans être freiné dans son développement ni dans sa socialisation. Si l'on avait disposé à l'époque d'un IRM ou d'un scanner, reconnaît le docteur Feuillet, les images auraient auguré d'un très mauvais pronostic. Et le bébé ne serait peut-être retrouvé dans un de ces mouroirs à long terme pour hydrocéphale, dont le comédien Michel Créton avait dénoncé en son temps les conditions inhumaines et le voile de silence entretenu par une société qui refuse de voir l'irregardable. Il est là le message d'espoir dont parle le docteur Feuillet. Dans un cas de ce type, si l'on ne dit pas au gamin qu'il est anormal, il risque au moins de le devenir. Et toute une structure de remplacement, une sorte de cerveau de secours, peut alors se mettre en place à partir de l'infime bande de matière grise collée à la paroi crânienne. Ce cas tout à fait extraordinaire souligne l'article du Lancet, met l'accent sur la plasticité cérébrale qui permet au cerveau de s'adapter à la pathologie acquise afin d'assurer, par un fonctionnement différent, un devenir physique, intellectuel, éducatif, puis social. Enfin, normal, quoi. Inutile de dire que les matérialistes ont moyennement apprécié l'article. Encore accrochés aux illusions péremptoires de Cabanis, ils n'ont pas manqué de se rassurer en soulignant que cet employé du service public avait un QI de 75, donc en dessous de la moyenne établie à 100. Sous-entendu, le quotient intellectuel est tout de même indexé sur la surface du néocortex. Mais que devient cet argument lorsqu'on est en présence d'un surdoué? D'un surdoué sans cervelle? Étrange tout cela. En 1980, le neurologue anglais John Lorber de l'université de Sheffield a décrit le cas d'un de ses patients, brillant doctorant en mathématiques doté d'un QI de 126, venu le consulter pour un problème mineur. Le scanner révéla que le jeune homme était pour ainsi dire dépourvu de cerveau, son encéphale étant réduit à une pellicule de moins de 2 mm de tissu cérébral recouvrant le sommet de sa moelle épinière. Depuis sa naissance, ce patient souffrait lui aussi d'hydrocéphalie. la rétention de liquide céphalo-rachidien, ayant remplacé la matière cérébrale à 95%, avait empêché le développement de son cerveau. Mais, curieusement, pas de son intelligence, ni de son humour. La révélation du vide de sa boîte crânienne lui valut un commentaire faussement résigné. « Je ferai ça ». Et il continua de mener une vie tout à fait normale, accumulant diplômes et distinctions en mathématiques. Conclusion prudente de la très sérieuse revue de recherche, je cite, « Cette observation illustre les capacités étonnantes du cerveau à fonctionner efficacement dans des conditions aussi anormales. » Le professeur Lorber a répertorié dans son étude plus d'une centaine de personnes sans cerveau discernable, qui obtenaient néanmoins des résultats allant jusqu'à 130 au test du QI. Merveille de la plasticité cérébrale qui réussit même à se passer de cerveau. Et il y a mieux. La plupart des exemples d'intelligence sans structure adéquate, pour reprendre la formule diplomate du professeur Lorber, ont pour cause une pathologie cérébrale du tout jeune enfant dont le cerveau en développement est apte à créer de nouvelles connexions, dérivations, déviations destinées à combler le vide. Mais qu'advient-il lorsqu'un accident subi aux abords de la retraite détruit un cerveau achevé? Une autopsie de 1914, pratiquée sur un homme de 62 ans, brutalement décédé en pleine santé apparente, révéla que, à la suite d'une blessure violente, à la tête reçue un an plus tôt, un vaste abcès purulent s'était développé dans son crâne. Son cerveau était littéralement réduit à l'état de bouillie, sans que ses fonctions ni son comportement en aient été affectés. Ce rapport d'autopsie me rappelle les expériences du biologiste américain Paul Pitch dans les années 50. À l'époque, le modèle officiel du fonctionnement de la mémoire était celui défini par l'illustre neurochirurgien Walter Penfield. Chaque souvenir est rangé dans une zone précise du cerveau, comme un livre dans une bibliothèque. Sauf que le physiologiste Karl Pribam, associé au neuropsychologue Karl Lachey, avait démenti cette théorie avec des rats. Après les avoir entraînés à accomplir des tâches précises dans un labyrinthe, ils avaient prélevé les zones de leur cerveau censées gérer ces informations. Et pourtant, leur comportement demeurait le même. Ulcéré par cette hérésie, Paul Pitch riposta au moyen de salamandres, bien pratique en laboratoire, car on peut leur retirer la cervelle, la charcuter et la remettre sans problème dans la boîte crânienne. Elle se reconnecte aussitôt. Pitch amputa donc les zones cérébrales gouvernant la recherche de nourriture, certain que la salamandre confirmerait, en mourant de faim, la loi de Penfield. Horrifié, il découvrit qu'il démontrait le contraire. Il avait beau hacher menu le cerveau de ces malheureux amphibiens, il suffisait qu'une infime part de matière cérébrale subsiste pour que l'ensemble des fonctions cognitives soient assurées. Le modèle holographique du cerveau, défini par Pribram, venait de s'imposer. Chaque partie contient le tout. Chaque fragment de l'hologramme garde la mémoire et l'intégralité de l'information enregistrée. Oui, mais c'est une particularité de ces cerveaux reptiliens rudimentaires. N'ont pas manqué d'objecter à l'époque les partisans de Penfield. Un argument que les centaines de surdoués sans cerveau détectable, répertoriés par l'étude de John Lorber, ont réduit en bouillie. À la différence de ses thuriféraires, Wilder Penfield lui-même, à la fin de sa vie, avait reconnu son erreur initiale, avec un grand panache et même une forme de gourmandise face au mystère. Il disait ceci, « L'étude des neurones ne peut pas expliquer la différence fondamentale entre une structure objective et une perception subjective. En dépit des méthodes modernes d'investigation, rien ne démontre que le cerveau seul peut réaliser tout le travail du mental. » Fin de citation. Et nous voilà donc en plein mystère. Mais alors, d'où vient la pensée? Quel est son mode de fabrication et où se niche-t-elle? réponse en forme de constat négatif. Nul n'a jamais réussi à trouver dans le cerveau la zone où se fabrique la conscience. Même un rationaliste incontesté comme Francis Crick, co-découvreur de l'ADN, qui professait par ailleurs que nous ne sommes qu'un paquet de neurones, a reconnu « Jusqu'à présent, nous ne pouvons localiser aucune région dont l'activité neuronale corresponde à l'image précise que nous avons du monde. Quant aux 280 milliards de milliards de données que, d'après le mathématicien John von Neumann, nos cellules cérébrales enregistrent dans une durée de vie moyenne, où et comment sont-elles stockées ? Point d'interrogation. Qui sommes-nous ? » Alors, deux hypothèses se sont attaquées au problème en fusionnant d'abord le modèle holographique de Carl Pribram, développé par David Bohm, et la théorie du filtre inspirée par l'écrivain visionnaire Aldous Huxley. Cette dernière sous-entend que la fonction du cerveau serait éliminatoire et non productive. Chaque personne est en mesure de se rappeler à chaque moment tout ce qui lui est arrivé et de percevoir tout ce qui s'est passé partout dans l'univers. La fonction du cerveau est de nous empêcher d'être envahis et perturbés par cette masse d'informations en grande partie inutile. Bon, c'est une théorie. Dans la conscience et la mémoire, incluant l'accès à l'inconscient collectif et au savoir cosmique, serait produit à l'extérieur du cerveau qui recevrait l'information qui lui est nécessaire et la traiterait après l'avoir triée et filtrée à son insu ou non. Une conception qui, évidemment, rend normal perception à distance, télépathie, médiumnité, j'en passe. Ces phénomènes, lorsqu'ils ne sont pas produits volontairement, indiqueraient en quelque sorte des trous dans le filtre. Revenons à ces cerveaux endommagés, accueillant néanmoins une pensée claire et juste. L'hypothèse ci-dessus appelle une métaphore toute bête. Un téléviseur en panne n'interrompt pas les programmes de la télévision, n'est-ce pas ? Leur traitement par les circuits appropriés. Et la diffusion reprend son cours normal lorsque l'appareil est de nouveau configuré pour capter les émissions. Ça, vous le savez tous. Cette suprématie de la conscience sur la structure défaillante du cerveau, qui apparaît dans de si nombreux dossiers médicaux, ne ferait que confirmer sur le vif l'effort indice fourni par la NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire expérience aux frontières de la mort. Lorsque le cerveau est mort clinique, est en mort clinique naturelle, comme celui d'un neurochirurgien Eben Alexander, ou artificiel, comme celui de la chanteuse Pamela Reynolds, vidé de son sang pour une opération sous hypothermie, une dérivation s'opère. La conscience observe de l'extérieur les événements autour de son corps aussi bien qu'à grande distance, puis les rapporte lorsqu'elle a réintégré le cerveau de nouveau habitable, entre guillemets. Y a-t-il d'autres hypothèses ? Parce qu'on est dans les hypothèses. Celle de l'hallucination, bien sûr. Les neuromédiateurs privés d'oxygène qui se font un trip anti-stress à base de kétamine. Bon, c'est une théorie. Un cerveau en mort clinique certifié par l'électroencéphalogramme ne peut rien faire, pas même halluciner. Et puis l'hallucination ne donne pas la possibilité aux aveugles de voir la personne qui a volé leurs affaires pendant leur mort clinique, ni de la décrire précisément une fois réanimée, comme l'a fait notamment Irène Badini. Tout cela sous-entend donc une délocalisation ponctuelle de la pensée, théorie qui fédère un nombre croissant de scientifiques de toutes les disciplines qui ont trouvé les mots pour parler à nos rêves autant qu'à notre raison. Du prix Nobel de médecine, John Eccles, la conscience au contrôle dirige le cerveau, lequel nourrit cette conscience mais ne la produit pas. Au neuropsychiatre Peter Fenwick, le cerveau est la grille d'entrée de la conscience. Du physicien quantique Emmanuel Rutherford, conscience et mémoire sont sans domicile fixe dans notre cerveau. Au neuroscientifique Mario Beauregard, le cerveau n'est pas l'esprit, c'est un organe adapté pour connecter l'esprit au reste de l'univers. Vous voyez que les nouveaux modèles de la conscience n'en finissent plus de rallier les suffrages dans la communauté scientifique comme auprès du grand public. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais que les matérialistes se rassurent. Le fait que la conscience soit invulnérable au dysfonctionnement ou à la mort du cerveau n'induit pas forcément l'existence de Dieu. Cela ne prouve que l'infinité complexité de toutes les structures vivantes, leur imagination sans bornes et leur aptitude à trouver une solution à tout. Enfin, c'est énorme, avouez-le. Ajoutons que si la pensée n'est pas en réclusion perpétuelle dans le cerveau, rien n'implique pour autant qu'elle flotte dans l'atmosphère. C'est un ver de terre qui nous en a apporté l'éclatante démonstration. Depuis 1959, on savait que lorsqu'on le décapite, sa tête repousse au bout de 14 jours avec sa mémoire intacte. C'est marrant, les vers de terre. Pour confirmer cette découverte de James McConnell, honteusement ridiculisée en son temps, une équipe de l'université Tufts, au Massachusetts, vient de modifier la conscience d'un ver en lui apprenant à associer la présence de nourriture à une lumière forte, ce qui est absolument contraire à sa mémoire génétique. Et que s'est-il passé après sa décapitation? Il s'est refait comme prévu une tête et un cerveau en 14 jours, à partir de ses cellules souches. Mais sa première action était de se diriger vers une lampe allumée, près de laquelle il n'y avait pourtant aucune nourriture. Expérience reproduite et publiée. Ce dont nous apportons la preuve, a déclaré au Monde l'un des auteurs de l'étude, Michael Levin, c'est que, de manière remarquable, la mémoire semble être conservée en dehors du cerveau. Et voilà. Pouf. Et vous allez me dire, oui, mais notre lien avec le ver de terre, un ADN commun à 75%. Une possibilité de régénération spontanée dont nous sommes parfois capables dans des conditions extrêmes. Et un foisonnement de théories scientifiques qui nous rapproche de l'immortalité mentale du vermisseau. Le cerveau hologramme de Pribram et Bohm, les éons éternels localisés dans nos électrons par le physicien Jean Charon, les psychons du neurophysiologiste Jean Eccles, contrôlant mentalement l'action des neurones, les champs morphogénétiques du biologiste Rupert Sheldrake, l'univers superlumineux du médecin et physicien Régis Dutheil, l'imaginaire neuronal du mathématicien André Bonaly, associé au biologiste Michel Bounia, autant d'hypothèses passionnantes qui se chevauchent et se complètent pour tenter d'éclairer les mystères de notre cerveau. Et que reste-t-il en face? Jean-Pierre Changeux et son espace de travail neuronal, hors des processus électrochimiques, point de conscience. Sans la matérialité des neurones provisoirement coactivés, point de pensée. Ne rejetons pas pour autant, au nom des ouvertures fascinantes qui précèdent, ces certitudes en vase clos d'un neurologue professeur au Collège de France, qui demeure pour beaucoup LA référence absolue. Mais son point de vue n'est plus un dictat rationaliste, c'est un choix culturel. Il est tout à fait normal que dans de perspectives nouvelles et de liberté inédite, mises à notre disposition par des savants hors normes, donne le vertige. Et qu'on veuille se raccrocher aux vieilles poutres maîtresses de la science classique, soit en faisant l'impasse sur les trous de verre qui nécessitent leur remplacement. Comme il était normal d'avoir le tournis à l'époque de Copernic et de refuser dans un premier temps que la Terre soit autre chose que le centre du monde, fixe et immuable. Il faut bien grandir à un moment donné, du moins s'adapter aux réalités ambiantes. Des choses étranges se passent au niveau du cerveau. Il fut un temps où l'attitude matérialiste, qu'on nommait le positivisme, était le rempart de l'intelligence contre la crédulité. Elle défendait alors l'audace de la libre pensée contre les interdits, les excès du religieux, soit. Aujourd'hui, c'est le contraire. La culture de la matière éphémère du néant raisonné est devenue l'engrais des sectes et des fanatismes qui, avec leur paradis automatique pour tueurs obéissants, ratiboisent par des réponses primaires tant d'interrogations subtiles n'ayant débouché que sur la promesse du vide. La riposte au détournement des spiritualités par la barbarie, qu'elle soit aveugle ou mercantile, n'est plus désormais, à mon humble avis, entre les mains de la religion ou de l'anti-religion, mais de l'imagination et de la science. de l'imaginaire scientifique qui nous conduit vers notre véritable réalité, la seule capable de réenchanter le monde. Pensée cosmique, immortalité des consciences, interconnexion totale fondée sur les forces d'intelligence, d'amour et de diversité, option de suivi infini dans notre monde concret comme dans les univers parallèles. Encore veut-il oser l'accepter, cette réalité de rêve. Et comme le font la plupart des chercheurs que j'ai cités, la rendre accessible, jubilatoire, constructible et même sexy. Et puis en débattre à coups d'objections, de contradictions, de remises en cause qui l'enrichissent, d'intuitions démentes matinées d'humour et de bon sens, de respect mutuel surtout et d'audace provocatrice. Voilà, restons intelligents. La vie de l'esprit, quoi. La vie de l'esprit contre la mort de l'âme, à nous de choisir. Entre le ver de terre décapité qui régénère sa mémoire et les faux ciels peuplés de génocides suicidaires, où est l'avenir, où est l'enjeu, et où en est la foi?
Thank you.
Vous êtes bien sur CFM Radio 90.2. Deuxième lecture. La balle de golf et le corbeau. Voilà. Dans notre première lecture, nous avons parlé de cette énigme qu'est notre cerveau et la pensée. Là, vous allez voir que le corbeau, il est loin d'être idiot. Je me demande d'ailleurs si La Fontaine ne s'est pas trompé dans sa fable. Allons-y. Comme par hasard, les trois êtres vivants, le plus souvent apparentés au diable par la superstition médiévale, c'est-à-dire les femmes, les chats et les corbeaux, caracolent aujourd'hui en tête du classement des intelligences. Le spécialiste américain James Flynn, inventeur de l'effet Flynn, c'est-à-dire augmentation continuelle du quotient intellectuel partout dans le monde, a confirmé en 2012 que sur toute la planète, les dames distancent désormais les messieurs en termes de QI. Ben oui, messieurs. Cela n'a rien pour me surprendre et n'appelle pas de commentaires de ma part. Hein, vive les women. Si ce n'est que l'évolution des mentalités n'a guère profité aux femmes. Il est rare de nos jours qu'on lapide encore à mort un chat ou un corbeau. J'ai précédemment évoqué les prouesses mentales du premier. Vous vous souvenez, j'avais fait une émission sur le mystère des chats, son intuition, son intelligence. Il me reste à traiter maintenant un sujet beaucoup plus sulfureux, l'intelligence du second, et oui, du corbeau. Et je vous l'ai dit, accrochez-vous aux branches. À ce que le mot intelligence a collé à un nom d'oiseau pourrait choquer, autant les capacités mentales du singe nous enchantent car il est de la famille un peu, autant celles de l'oiseau nous mettent mal à l'aise vu qu'il descend des dinosaures. Ça nous gêne un peu plus. Il convient de préciser quelques particularités du corbeau. Je lui conserve ici son nom générique pour la commodité du propos, sachant que entre la simple corneille de nos champs et de nos villes, le choucas des greniers en ruine ou le grand corbeau de la Tour de Londres, les prestations diffèrent, mais l'esprit est le même. Le corbeau, donc, sait compter, reconnaître les couleurs, employer des outils, manipuler les lois de la gravitation, fabriquer des accessoires pour se faciliter la vie, recruter de la main-d'œuvre, imiter le cri du coyote, pêcher à la ligne, organiser des compétitions sportives et opérer des choix culturels. Il est en outre capable d'angoisse conjugale et de rouerie préméditée pour rouler dans la farine ses congénères et les autres espèces. Ouh, c'est un drôle d'oiseau. Hein. Le génial La Fontaine, j'y reviens, pour une fois s'est trompé dans sa fable. Une simple erreur de casting. C'est le corbeau qui est psychologiquement apte à piquer son fromage au renard, pas le contraire. Ajoutons que notre phénix des hôtes de ces bois possède par ailleurs des dons de secouriste. Et revenons au menu pour plus de détails. Le comptage d'abord. Au niveau de la subitisation, l'appréciation immédiate d'une quantité sans recours au calcul mental, le corbeau va jusqu'à 6, comme l'être humain. Si on lui montre durant une demi-seconde une photo avec 5 noix, il ira spontanément vers celui des 6 bocaux disposés autour de lui qui en renferme 5, sachant qu'on lui donne le contenu lorsque son compte est juste. Mais ça marche aussi quand on lui met des billes à la place des noix, l'activité ludique prévalant souvent chez lui sur la recherche de nourriture. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a la récompense. Monsieur réfléchit. Après une heure d'initiation à la règle du jeu, il gagnera dans 100% des cas, et ce durant toute sa vie. Voilà des expériences extraordinaires auxquelles se livrait sous le régime hitlérien le grand zoologiste allemand Otto Keller, essayant de noyer la bête immonde dans l'intelligence des corbeaux. Il dirigea ensuite le département de zoologie de l'université de Fribourg jusqu'à sa retraite en 1960. Et c'est là qu'il développa le concept de pensée informulée, pour rendre compte des performances mentales des singes à plumes, comme il est surnommé, nos chers corbeaux. Pour survivre, si le corbeau mémorise les quantités, il sait aussi manier les couleurs. Un jeu d'enfant pour lui de les reconnaître. On lui présente un panneau jaune, puis on l'escamote et on lui montre des objets de différentes couleurs. Invariablement, il ira vers le jaune pour toucher sa récompense. Plus fort encore, dans son milieu naturel, comme en laboratoire, il utilise spontanément des outils, en particulier des marteaux quand il s'agit d'ouvrir des noix ou des moules. Le marteau peut être une pierre, hein, un rivet ou un bout de parpaing, tout ce qui lui tombe sous le bec. Mais une deuxième moule pour ouvrir la première en la martelant le temps qu'il faut. En laboratoire, il apprend sans problème l'usage du levier. Quant à l'ouverture des boîtes fermées par un loquet, il repère très vite le principe. Lorsque l'ouverture de la targette ne lui permet pas d'attraper l'objet cible au fond d'une boîte trop étroite, il change de tactique. Systématiquement, au lieu de se casser le bec à soulever la targette pour rien, il retourne le pot afin d'utiliser la gravitation pour conjointement ouvrir le loquet et faire tomber l'objet. Drôlement futé le corbeau. Le sens de l'ergonomie, quoi. L'ornithologue Aude Ferrand, qui a travaillé à partir des années 80 sur des choucas en semi-liberté dans une volière, avec nourriture et jeu à volonté, décrit dans sa thèse des résultats sidérants, commentés par la plus fine experte en oiseaux du CNRS, Bernadette Chauvin. Capable d'utiliser spontanément une tige pour attraper dans un trou d'arbre les chenilles qui s'y accrochent par réflexe, le corbeau sait aussi, quand ça lui est utile, façonner son outil. Par exemple, si l'on dispose dans un tube en verre une petite boîte pourvue d'une anse, la tige en fer droite qu'il a trouvée dans les parages ne lui sert à rien. Il va alors la recourber afin de glisser dans l'anse le crochet improvisé qui va lui permettre de sortir la boîte du tube. Drôlement malin le corbeau. Mais dans son milieu naturel, il n'a pas attendu l'homme ni ses objets manufacturés pour résoudre les problèmes d'accessibilité. Dès le XVIIIe siècle, des naturalistes comme Carl von Linné rapportent que, face à des cadavres de bovins et de cervidés, il imite le cri du loup ou du coyote. Si, si. Et ce afin de signaler la proie à ses sous-traitants qui, en lui ouvrant la carcasse, lui permettront de prélever, sans se fatiguer, les morceaux qui l'intéressent. Ah mais futé le piaf. Un pourcentage d'apporteurs d'affaires, comme on dirait aujourd'hui. Eh oui, il utilise donc son prochain. Même ceux qui ne sont pas de son espèce, hein, vous avez bien compris. Et Berward Wiener confirme en 1964 ses prouesses d'imitateur dans ce genre de circonstances, tout en signalant qu'il lui arrive même de contrefaire la voix humaine en période de chasse. Et qu'en est-il sur les zones de pêche ? Le psychologue animalier Richard Erstein rapporte l'observation d'un corbeau étudiant avec beaucoup d'intérêt et de discrétion un pêcheur creusant un trou dans la glace d'un lac gelé avant d'y tendre une ligne. Le pêcheur partit, le corbeau est allé tranquillement attendre que ça morde, puis il a tiré la ligne en reculant sur la glace jusqu'à ce qu'il ait sorti le poisson. Après quoi, il est revenu le boulotter. À mon grand regret, l'auteur ne précise pas s'il a ensuite replongé la ligne dans l'espoir d'une nouvelle prise. Malgré une recherche opiniâtre, je n'ai pas trouvé d'exemple de corbeau qui pêche de lui-même en appâtant le poisson. Cela semble réservé aux hérons, d'après les descriptions de Powell. En revanche, la manière dont les corbeaux organisent entre eux des compétitions sportive, à tout le moins des concours de vitesse et d'adresse, est attestée par la plupart des ornithologues que j'ai cités. La principale discipline de ces Jeux olympiques à Vierre est le lâcher de noix, de pierres ou de brindilles. Quand chaque joueur se pose à tour de rôle sur la plus haute branche d'un arbre, fait tomber le relais qu'il tient dans le bec, puis plonge en piqué pour le rattraper juste avant qu'il ne touche le sol. L'épreuve peut durer très longtemps, et il semble que les concurrents n'aient pas bien compris le principe du vainqueur et du podium. Certains auteurs cherchent un but concret à ce pur divertissement du genre. Casser les noix. Mais on saisit mal l'enjeu nutritif quand il s'agit de pierres et de brindilles. Quant à la notion de choix culturel évoquée plus haut, ce n'est pas moi qui invente ce concept qui paraît de prime abord réservé à l'être humain. C'est Barbara King, professeure d'anthropologie, spécialiste américaine des primates et des oiseaux, auteure d'une passionnante étude sur l'affectivité animale. Elle emploie cette expression à propos d'un parking de l'université de Washington que les célèbres ornithologues Marsloof et Angell ont étudié avec passion. Depuis un demi-siècle, en effet, une centaine de corbeaux se rassemblent chaque matin sur cette aire de stationnement à l'heure où le campus s'éveille. Au départ, le choix du lieu pourrait s'expliquer par la présence d'une décharge, mais elle a disparu depuis 4 générations de corbeaux. Et il n'y a plus rien à picorer sur place. Et pourtant, ils ont gardé ce lieu de rendez-vous ancestral, éloigné de leur nid, mal exposé et pas très bien fréquenté. Le voisinage du terrain de foot dérangeant leur conciliabule à coups de sifflet et de tirs mal cadrés. Conciliabule, oui, ce n'est pas moi qui le dis. Les corneilles se regroupent, échangent les derniers potins, préparent les événements de la journée et s'ébrouent pour réveiller leur corps encore ensommeillé, écrivent Marsloof et Angell. Ces termes ont de quoi surprendre chez d'aussi éminents connaisseurs des oiseaux. Est-ce que c'est une crise d'anthropomorphisme? Non, ces deux ornithologues ont appris au fil des années à décrypter le langage des corbeaux. En l'occurrence, c'est un langage de plumes. Il est aisé, affirme-t-il, de traduire leurs émotions en déchiffrant la position de leurs ailes et de leur plumage. Des émotions que ces mal-aimées couleurs d'encre, comme disait le poète William Blake, ont visiblement besoin de partager. Difficile pour un auteur de ne pas être touché par ces lointains cousins qui s'expriment au fil de la plume. Au choix culturel dont ils gardent le secret, il faut encore ajouter les angoisses conjugales. Voilà. S'il leur arrive de donner ça et là des coups de bec dans leur contrat de mariage, les partenaires s'unissent en général pour la vie. Keller et ses élèves ont prouvé que la femelle ou le mâle, s'inquiétant de l'absence de son conjoint, imite alors ses croissements, sa tessiture, sa ligne mélodique. Un phénomène confirmé par de récentes comparaisons informatiques d'empreintes vocales. Simulé en laboratoire, la disparition d'un des amoureux a permis des enregistrements dont l'analyse est sans ambiguïté. Après quelques cris en sonorité propre, demeurés sans réponse, le timbre se modifie soudain et la similitude spectrale devient absolue entre l'imitateur et l'objet de son inquiétude. Pourquoi ? Pour que tu saches que c'est toi que je cherche et moi qui t'appelle. Je suggère d'ailleurs ce sous-titre. Je n'en vois pas d'autre. Après le choix culturel, le mimétisme affectif. Mais ne nous laissons pas abuser. La duplicité du corbeau est à la hauteur de sa sensibilité amoureuse. Ainsi, quand il décide de cacher une belle provision de noix ou de charognes pour l'hiver, il le fait avec une absence totale de discrétion, s'arrangeant pour que des convoiteurs le remarquent et l'espionnent. Alors il les met en fuite, feignant de ne pas se douter que les lascars ont mémorisé la cachette pour l'hiver. Il revient ensuite en douce, à un moment où il se sait tout seul, et transfère son butin dans une autre cachette. Oh, le futé! Ou bien il en construit ouvertement une super secrète qui n'abritera jamais rien. Redoutable stratège. D'un moins, quand on essaie de le transformer en arme de guerre, c'est un bide complet. N'est pas un pigeon qui veut. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce dernier fut engagé comme guide missile par le National Defense Research Committee sur la recommandation de l'illustre psychologue Burrhus Frederick Skinner, père du behaviorisme. Sa mission classée secret défense, picorer à l'intérieur de l'ogive, où il est enfermé, la cible qu'on lui a fait mémoriser et qu'on lui projette par lentille optique. Si la trajectoire dévie, ses coups de bec à droite ou à gauche redressent le cap. Durant la phase d'essai, un général de l'US Air Force demanda à Skinner de tester également les performances du corbeau, cet athlète de l'espace, expert en poursuite aérienne. Les nazis, en effet, d'après les rapports d'espionnage, l'entraînaient comme poseur de bombes dans un centre de recherche militaire près de Hanovre. Mais, à la différence du pigeon voyageur, le corbeau ne mémorise que les choses qui lui servent ou l'amusent. Donner des coups de bec frénétiques pour corriger le cap de missile qu'il envoie à la mort, franchement, il n'en voit pas trop l'intérêt. C'est comme pigeon, paraît-il. pensait en regardant avec une grande perplexité la démonstration du guide missile vivant, tel que l'a filmé en 1942 l'US Air Force, vidéo déclassifiée sur le net, que les étudiants d'Oxford se sont amusés à lui montrer. En revanche, cet objecteur de conscience ira volontiers se recueillir avec ses proches devant la dépouille d'un des siens. Non pour présenter ses condoléances ni honorer la mémoire du défunt, comme nous le précise Martzouf et Angel, mais pour préserver son avenir. C'est une simple réaction d'adaptation, dans la mesure où elle aide les oiseaux à comprendre ce qui a causé la mort de leurs congénères, ce qui augmente ainsi leur chance d'éviter à leur tour de subir le même sort, commente Barbara King. La veille funèbre chez le corbeau s'apparenterait donc plutôt à une cellule de crise. Dans le droit fil de cette logique, faut-il en déduire que ces oiseaux seraient capables de pratiquer une autopsie à des fins didactiques ? C'est une hypothèse en cours, vu qu'on observe ces charognards gourmets dépeçant parfois le cadavre d'un des leurs sans rien manger, juste pour regarder. Du cynisme de Dr. House à l'inquiétude sentimentale du Dr. Quinn et de la provocation déjantée du Dr. Follamour à la méthodologie médico-légale de Body of Proof, le corbeau a bien mérité ce Bird Award que rêvait de lui voir décerner le grand ornithologue alsacien Jean Drost. Mais le jeu, la ruse, l'adresse, le mimétisme et l'abstraction dans lesquels il brille ne sont pas les seules cordes à son bec. Nous pressentons aussi, note Martzouf et Angel, que les partenaires d'un couple et les parents sont capables d'éprouver du chagrin quand l'un des leurs disparaît. Et de la joie, comme on va le voir, lorsqu'ils parviennent à le ressusciter. J'en arrive donc à la balle de golf. Nous sommes sur un green à Seattle. Un joueur termine son swing, frappe et pousse un juron en immobilisant son club. La trajectoire de sa balle a été déviée par un corbeau en vol qu'elle a percuté de plein fouet. Les joueurs s'approchent avec leur caddie. La victime gît sur le gazon gras, visiblement tuée sur le coup. Désolé, s'apprête à continuer leur parcours vers le trou suivant, lorsqu'un deuxième corbeau surgit de nulle part, se pose au chevet de ce congénère et commence à le pousser, à lui donner des coups de tête. Puis les joueurs l'entendent lancer cinq cris stridents. Presque aussitôt, cinq autres corbeaux atterrissent près d'eux. Médusés, les golfeurs voient les secouristes allonger les plumes de la victime, lui agiter les pattes, lui pétrir le poitrail. Ils se mettent à la cribler de petits coups de bec et à la tirer, apparemment morte, en essayant de la soulever par les ailes. Admiratif mais convaincu de l'inanité de ces tentatives de réanimation, les joueurs s'en vont. Mais d'autres golfeurs arrivent derrière eux et rapporteront plus tard l'incroyable nouvelle au clubhouse. Le corbeau est sorti du coma et dans une espèce de sarabande festive s'est envolé avec son équipe de réa. Il n'empêche, se hâte d'ajouter Barbara King, toujours soucieuse d'éviter l'angélisme, qu'on a vu aussi le contraire. Une bande de corbeaux qui, après concertation, achève au sol l'un des leurs blessé par un chasseur. L'élan compassionnel, si c'est bien de cela qu'il s'agit, est apparemment précédé d'une phase d'appréciation de la situation. Diagnostic, examen des chances de survie, discussion, prise de décision collégiale. On imagine mal l'enchaînement d'opérations mentales nécessaires à un tel choix, au premier rang desquelles la conscience de la mort, dans toute son abstraction. Le comportement du corbeau, déjà troublant dans son rituel de veillée funèbre, nous impressionne encore plus dans cette marge de manœuvre tellement subjective qui sépare l'acharnement thérapeutique de l'euthanasie. Mais parlons du meurtre aussi. Car si les corvidés, véritables éboueurs de la nature, sont avant tout nécrophages, ils sont parfois un peu pressés et il leur arrive de hâter la mise à disposition des cadavres. Ainsi, dans l'Arctique, lorsque s'est arrêté le massacre des bébés phoques, assurant leur pitance de nettoyeurs, Barbara King a vu un binôme de corbeaux venir encadrer un des petits rescapés qui faisait la sieste sur la banquise. Tandis que le premier agrandissait un trou dans la glace, son complice poussait le bébé dans l'eau. n'allons pas jusqu'à dire qu'il maquillait son décès en noyade accidentelle, mais en tout cas, leur mise à mort du phoque était bien plus raffinée et propre que ce qu'ils avaient pu observer de la part des humains. Comme quoi le corbeau ne fait pas qu'imiter, il améliore. Un dernier mot sur le golfe de Seattle. Il semble que le principe de précaution ait également sa place dans l'arsenal psychologique de notre oiseau. Après le fameux crash du corbeau tombé au Green Donner, les joueurs signalèrent, plusieurs jours durant, des chapardages à répétition sur l'ensemble du parcours. Impossible de retrouver les balles qu'ils avaient expédiées en direction des trous. Je vous dis, sacrée bestiole. Allez, je vous laisse à vos méditations. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Always play the game. She dives in hands, her village, but expands. the all-time loser. Headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping. Steam breaking on his brow. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's falling down the corridor on his hands and knees. The all-time winner has got him by the ball.